Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est de Kidal que nous allons parler une fois de plus. Kidal qui inquiète toujours avec des affrontements répétitifs. Les habitants de la ville sont très inquiets. Comment sortir de l'impasse? Il y a où il y avait, dit-on, une tentative de recherche de compromis à Bamako. Qu'en est-il en réalité? Les discussions progressent-elles? Peut-on être optimiste quant à l'heure ici? Si les discussions venaient à échouer, que pourrait-on envisager? Ce sont là quelques-unes des questions que nous allons aborder avec nos invités dans cette émission, nos invités qui sont au nombre de quatre, Sidi Elmedi Ag Albaka, il est du Gatia, Zbeti Ag Akadou de la société civile, Chaka Cheble Doumia du Centre d'analyse politique et économique et Mamadou Djouara, il est sociologue à la présentation Seydou Fomba.
Le Grand Dialogue.
Bienvenue à toutes et à tous. À Kidal, je le disais, la situation reste préoccupante à plus d'un écart. Tantôt des affrontements, tantôt la tension. Kidal n'a plus rien d'une ville calme depuis un certain temps. On peut, pour l'instant, on peut donc parler d'impasse, non? L'impasse, le mot, est-ce qu'il convient? Je pose la question à vous. En premier lieu, si ce mot peut qualifier la situation qui règne aujourd'hui à Kidal, je pose la question donc à vous, Sidi Albaka.
Merci beaucoup une fois de plus pour l'invitation. Je salue à travers votre micro tous les auditeurs de par le Mali et le monde. Moi je crois la question de Kidal est une question, ça va vous étonner, toute simple, mais malheureusement c'est une question qui a toujours été négligée. Quand je vais me permettre de faire un peu d'histoire, Kidal a toujours été la ville où les problèmes commencent. Ce n'est pas une fierté pour nous en tant que Kidalois, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas cacher. Mais par contre, on a toujours voulu faire la paix, on a toujours voulu faire du copier-coller en fermant les yeux sur les vrais problèmes. Et tant que le vrai problème n'a pas été résolu, Kidal sera toujours la base des problèmes, des guerres, si vous voulez, des affrontements, des rébellions et j'en passe. Mais c'est quoi ce problème qui n'a jamais été réglé à Kidal? Un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, un problème que les colons ont créé et l'ont laissé, et le gouvernement du Mali, les différents gouvernements du Mali sont venus renforcer jusqu'à nos jours, et je crois que nous sommes en train d'aller vers sa fin. Et ce problème est très simple. Le problème de Kidal aujourd'hui n'est pas un problème SEMA plateforme. C'est archi faux. Pour preuve, la SEMA et la plateforme cohabitent en parfaite symbiose à Meneka, où elles ont les mêmes cachets à Gao, à Tombouctou, à Anefif, à Adelhok, à Tessalit.
Donc il y a un problème
qu'à Kidal. Il n'y a qu'à Kidal où il y a un problème, et ce problème s'appelle Imrad Iforas. Pourquoi? Pour la simple raison que les Imrad sont la majorité. Constitue la majorité à Kidal et les Iforas, une minorité qui a toujours utilisé son côté politique à travers le gouvernement pour s'imposer. Je vous rappelle que les premières élections législatives de Kidal, où le fait Ntalla Gattaher était candidat de la DEMA, et les Imrad avaient un candidat qu'on appelle Wado Sanaksem Ntalla qui est encore vivant, Ntalla Gattaher a été battu en 91 dès le premier tour. Alors, après, le gouvernement a joué le jeu des Iforas, c'est devenu le pouvoir de la famille, Ntalla étant le chef, son premier fils est député, son deuxième fils est maire. Aucun enfant de Kidal n'a le droit de sentir le pouvoir si il n'est pas Iforas ou sous la couverture des Iforas.
Alors, Sidi Elmedi Albaka, on comprend que le problème a ses racines qui plongent vraiment très profondément, qui nous amènent donc très loin dans le passé. Nous aurons l'occasion d'évoquer certains aspects des questions que vous venez de soulever. À présent, nous allons donner la parole à Zbeti Akado de la société civile. Monsieur Akado, la situation à Kidal aujourd'hui, comment vous l'appréciez?
Bien, merci de m'avoir donné la parole. Je salue évidemment, comme mon prédécesseur, tous les auditeurs de la radio. La question de Kidal, c'est une question aujourd'hui que les Maliens sont suffisamment analysés et chacun a son point de vue. Et d'une manière générale, les points de vue ne convergent pas. Moi, mon point de vue en tant que société civile, en tant que membre de l'une des plus nombreuses communautés des régions du Nord, je voudrais dire la communauté Bella, le problème que mon fiston, s'il veut accepter que je l'appelle mon fiston Sidi Aga Al-Bakkar vient d'évoquer, est le problème fondamental de Kidal. Et au-delà de Kidal, quand il dit que ça va partout sauf à Kidal, j'ai envie de lui dire, ça ne va nulle part. Sauf que à Kidal, il y a les Imrades qui ont suffisamment de force pour refuser d'être vassalisés, d'être piétinés, d'être frustrés. Ailleurs, les autres sont faibles. Sinon, ça ne va pas à Tombouctou, ça ne va pas à Bourem, ça ne va pas à Nsongo, ça ne va nulle part. La plateforme et comme il le dit, la plateforme et la SEMA et autres sont en train de s'imposer sur le reste, du territoire des régions du Nord. Ce n'est pas que les populations le veulent. Donc c'est un problème lié à ce que l'on pourrait appeler tout simplement la volonté de certaines communautés de dominer les autres. Et ça, c'est antérieur à la colonisation. La colonisation est venue le trouver, elle l'a combattu un tout petit peu. En partant, elle a compris qu'elle ne peut bien, disons, chemin faisant, elle a compris qu'elle ne peut gérer ces communautés-là qu'en s'appuyant sur certaines. Et elle a continué ce jeu-là. Malheureusement, les indépendances ont tenté de résoudre ce problème-là avec la période de Modibo Keïta. Et très rapidement après lui, on est retombé dans des travers et pour atteindre des points de non-retour aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui est catastrophique. Qu'on accorde que l'État, que les pouvoirs se rendent coupables, sinon se rendent responsables de privilégier des communautés contre d'autres, de soutenir certaines contre d'autres, de dire à certaines communautés qui sont résidentes à Kidal, ne rentrez pas à Kidal, laissez les autres être à Kidal, c'est inacceptable. Moi, je pense que la communauté internationale et tous les Maliens en particulier doivent se dresser pour réfugier ce qui est en train d'arriver à Kidal. Qu'on accepte certains et qu'on refuse d'autres, ce n'est pas acceptable.
Monsieur Foma, je joins également ma voix à mes deux prédécesseurs pour saluer tous nos auditeurs à travers le monde, ici au Mali. La situation de Kidal est plus qu'inquiétante. Aujourd'hui, moi je me rappelle quand j'étais au téléphone dans cette même émission, vous m'avez posé la question sur ce qui s'est passé entre les groupes armés à Niamey. Mm-hmm. Ce jour-là, j'avais laissé entendre qu'il ne faut pas croire à ce qui se passe. En fait, le semblant accord qui a existé, qui aurait existé entre ces groupes armés, tout le monde savait que tôt ou tard, ça venait par montrer ces différentes limites. Et éventuellement, ce sont ces limites-là auxquelles nous voyons aujourd'hui à Kidal. Ce qu'il faut, à tout prix, d'abord, Agado vient de le dire, c'est que c'est pas dire qu'on doit privilégier une communauté sur une autre communauté. Ça, c'est des solutions, on va en venir. Mais ce qu'il faudra chercher à éviter à tout prix, c'est la perte des civils. Et je pense que la situation telle qu'elle prévaut actuellement à Kidal, les civils, la population civile kidaloise est en danger. Et il faut tout faire pour prévenir le conflit.
On va à présent s'intéresser au regard du sociologue qui est Mamadou Diouara. Monsieur Diouara.
Merci beaucoup. Je vais commencer d'abord par m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés à Kidal. Tous ceux qui sont tombés dans ces combats, ce sont des Maliens qui ont perdu la vie, malheureusement encore une fois. Et malheureusement, on risque d'en déplorer d'autres. Si des mesures ne sont pas prises. Je suis très très sensible à ce que mon frère vient de dire et à ce que Akado vient de dire parce qu'en fait, en réalité, nous avons dans la naissance de l'État républicain entrepris un travail de destruction des féodalités existantes. Malheureusement, ce travail n'est pas arrivé jusqu'au grand nord du Mali. Il y a des mécanismes endogènes féodaux qui résistent aux principes républicains. Et le courage politique a manqué. Je parle des différents gouvernements du Mali pour y mettre fin. C'est des dynamiques sociales qui sont là. on a décidé d'aller à une forme républicaine où la gouvernance se fait par le fait majoritaire, par le principe de la démocratie. Et malheureusement, ces mécanismes endogènes veulent nous maintenir dans un système où la minorité, sous le prétexte d'appartenance sanguine, s'arroge le droit de gouverner. C'est une réalité. Il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, il faudrait qu'on accepte d'attaquer ce problème. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième le point que je vais souligner, c'est que nous sommes quand même aujourd'hui dans un processus de mise en œuvre de l'accord. Et il ne faut pas oublier ça. Dans l'accord, il y a un certain nombre de choses qui sont reconnues. L'unité de l'État, la forme républicaine de l'État, la laïcité de l'État. Et la communauté internationale est citée comme garantie de la mise en œuvre de l'accord. Comment comprenons-nous aujourd'hui le comportement de cette communauté internationale à Kidal? Quand les affrontements ont eu lieu la première fois, la communauté internationale était là quand les mouvements se préparaient à s'affronter. Ils n'ont pas intervenu. Ils ont attendu qu'il y ait beaucoup de morts et que la position de force soit d'un côté pour intervenir. Et intervenir comment? En demandant à l'une des parties de quitter. Après, les affrontements ont lieu. Un mouvement se déplace pour aller vers un autre et l'attaquer. On n'intervient pas. Le moment où ce mouvement se défend et poursuit l'autre, on l'empêche de rentrer. Je pense qu'il y a... Nous sommes dans le devoir de nous poser des questions réelles sur le rôle de cette communauté internationale à Kidal. Et davantage, c'est important parce qu'ils viennent de le dire, c'est un problème qui est créé au départ. Bon, c'est l'une des raisons. Hein. C'est un problème qui est créé au départ par le colonisateur. Aujourd'hui, qui gère Kidal? C'est le même colonisateur qui est à Kidal, qui intervient. Alors, est-ce une erreur ou un choix stratégique antérieur dont les conséquences sont en train d'être gérées aux fins d'intérêts que nous ne connaissons pas? C'est des interrogations que je pose, je n'ai pas de réponse.
Nous allons à présent donner la parole à vous, Sidi El-Mehdi Aga Albaka du Gatsi. Alors, nous allons à présent quand même nous intéresser particulièrement à cette rencontre de Bamako. On l'évoque, on dit depuis le vendredi dernier, les deux parties, à savoir le ACIA et le Gatsi, sont représentés à une rencontre à Bamako pour tenter de trouver un compromis. Qu'en est-il réellement?
Merci beaucoup. Moi, avant de revenir à cette rencontre qui n'arrive pas encore de prendre forme, je vais peut-être faire un clin d'œil. D'abord, je vais remercier tous les autres parce que je pense qu'ils ont dit tout ce que je voulais dire à tour de rôle. Je vais revenir sur les accords d'ANFIF ou l'entente, le pacte d'honneur d'ANFIF signé le 14 novembre 2016 et celui du 17 juillet signé à Niamey. Je pense que dans ce studio, je vous ai averti que si la CEMA ne remplissait pas sa part de contrat, les armes allaient chanter. Et malheureusement, 24 heures après, c'était le cas. Le problème n'est pas un problème d'accord. Mais mon frère faisait tout de suite allusion à l'accord d'Alger. Mais qu'est-ce qui est dit dans l'accord d'Alger? 60 jours après sa signature, l'armée devrait être sur toute l'étendue du territoire national. Pourquoi? Est-ce que c'est le cas? Non. Donc je pense qu'on doit arrêter de faire le jeu sentimental et affronter la réalité. Il y a un problème aujourd'hui qui a été créé des années d'Iran et que vous avez une nouvelle génération qui ne veut plus se soumettre. Moi personnellement, mon père a été exécuté en 94. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est amarite. Vous pensez qu'aujourd'hui j'ai 30 ans, je vais accepter que mes enfants puissent subir le même sort? Jamais de la vie. Il faut que la communauté internationale qui connaît le dossier, mais qui le néglige, sache, avec ou sans son implication, ceux qui sont de Kidal vont soit faire la paix définitive à Kidal ou faire une guerre éternellement à Kidal. Je reviens encore sur le rôle de la communauté internationale qui, après...
Juste en deux mots.
Juste, oui. Après le départ du Gatia de Kidal, on n'est pas étranger à songer. Moi, personnellement, j'ai eu à filmer les événements de Moussa Mara. J'ai eu à filmer le dernier départ de l'armée malienne à Kidal. Je sais tout ce que l'administration a fait. Ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Mais une neutralité est nécessaire pour faciliter la sortie de cette crise. Maintenant, pour ce qui est encore de ces rencontres entre plateformes, SEMA, entre Imrad, Foras, entre Gatia, Aseya, tout ça, je crois que c'est du folklore.
Allons revenir à cette rencontre.
Juste une minute. Pourquoi c'est du folklore? Parce que la volonté d'aller à la paix n'est pas là. L'envie d'aller affronter les vrais problèmes n'est pas là. Vous avez le communauté à Kidal. je reviens à cet accord d'Anefif où les Imrades ont fait la paix avec les Dosak. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de problème. Alors, avec les Idnan, avec toutes les autres communautés, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a que les Iforas soutenus par une main invisible qui veulent encore revenir. Ça ne marchera absolument pas. Aucune puissance de l'intérieur ou de l'extérieur ne pourra nous empêcher d'aller vivre chez nous et en dignité.
Studio Tamani, je dois rappeler que nous avons souhaité la participation du ICIA à cette émission. Alors, nous avons tout fait pour pouvoir obtenir la garantie de la présence d'un des participants. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous sommes au regret de constater qu'ils ne prennent pas part à ce débat. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre l'émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La situation à Kidal et la tentative de trouver un compromis à Bamako avec les représentants de belligérants, c'est de cela que nous parlons dans le grand dialogue de ce mercredi. Nous l'avons dit, cette rencontre justement de Bamako, c'est d'elle que nous allons parler. On a appris, en tout cas par voie de, c'est pas de presse, que cette rencontre est en cours depuis le vendredi dernier. Alors, puisque vous êtes quand même du Gatia, on va commencer par vous, Sidi Albaka. Cette rencontre, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Elle a commencé, elle progresse. Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoutez, je pense que c'est très facile de comprendre. Tant qu'on nous empêche de retrouver nos femmes et nos enfants et qu'on nous exige de rester à 50 km de Kidal, alors que des Libyens, des Burkinabés, des Nigériens, des gens de Boko Haram sont en train de faire la loi dans nos familles, nous ne pouvons pas parler de ce signifie. Le problème de ces rencontres aujourd'hui, c'est que la communauté internationale veut exiger un cessez-le-feu immédiat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont à Kidal resteront éternellement à Kidal et ceux qui sont aux alentours de Kidal resteront cantonnés aux alentours de Kidal. Mais pour quand? Alors, il n'y aura pas de cessez-le-feu tant que nous n'avons pas retrouvé nos femmes et nos enfants au cœur de Kidal.
Alors, de quoi parlez-vous alors à Bamako
au cours de cette rencontre? Nous ne pouvons jamais refuser la paix. Quel que soit, on ne pourra pas finir de vous narrer les souffrances que nous avons subies des années d'Iran, avant même ma naissance. Nous parlons aujourd'hui de paix parce que nous sommes parmi ceux-là qui ont toujours tendu la main, malgré toutes les difficultés. On a carrément bâti les Iforas à Adilal, et ils le savent, la communauté internationale le sait très bien parce qu'elle a survolé les affrontements. Elle connaît la réalité mieux que n'importe qui. Quand elle nous a appelés pour parler paix, on dit mais pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas faire la paix? Mais cette fois-ci, nous ne ferons pas n'importe quelle paix. La paix se fera à l'intérieur de Kidal, et qu'on connaît très bien Kidal, c'est deux quartiers. Vous avez un quartier, s'il vous plaît. Mm-hmm. Vous avez un quartier pour la SEMA, vous avez un quartier pour la plateforme, vous avez un quartier pour les soi-disant Azawadiens, vous avez un quartier pour les Maliens. De même, vous avez une partie des Iforas, vous avez une autre partie des Imrades. C'est géographiquement tracé. Alors, nous ne pouvons pas parler de cesser les feux aujourd'hui sans qu'on nous ouvre les portes de Kidal. Alors, nous ne voulons même pas que la communauté internationale nous aide, qu'elle nous laisse gérer nous-mêmes, diplomatiquement ou avec la force. Nous avons les moyens aujourd'hui de retourner à Kidal.
Alors, si je précise
que c'est toujours cette même communauté internationale qui nous empêche, je ne vais même pas dire de prendre Kidal, mais d'en finir une fois pour toutes avec ces problèmes.
Ah, on va revenir à ma question. Ma question, c'est donc sur rendez-vous de Bamako, cette rencontre. Elle a commencé le vendredi, dit-on. Est-ce qu'elle progresse, cette réunion? Et de quoi
non,
vous parlez?
Je viens de vous dire qu'elle ne progresse pas. Pourquoi? Parce que la communauté internationale a proposé un document qui exige d'abord la signature d'un cessez-le-feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous acceptons de signer un cessez-le-feu aujourd'hui, nous resterons éternellement aux alentours de Kidal et les Iforas resteront éternellement à l'intérieur de Kidal. Nous ne pouvons pas accepter ces pièges. Alors, tant que une proposition qui arrange les deux côtés n'a pas été faite, je ne vois pas comment les choses pourront avancer.
Nous allons donner la parole à d'abord Zbeti Agakado qui la demande. Donc, il est de la société civile, monsieur Agakado.
C'est juste pour emboîter le pas au fiston. La communauté internationale, puisque c'est d'elle qu'il s'agit,
et c'est elle qui, c'est sous ses auspices que sont organisées, n'est-ce pas, ces rencontres-là. On se souvient que le 17 mai, ou c'est quand encore, la fameuse guerre qu'on a perdue à Kidal.
23 mai.
On se souvient qu'en une demi-journée, l'État du Mali a capitulé en acceptant cette histoire de signature de cessez-le-feu. Les Maliens ne comprenaient pas ce que ça veut dire, mais nous, historiens, on savait ce que ça veut dire. On sait que quand vous acceptez la sécession des hostilités, vous reconnaissez de facto l'occupation d'une partie de votre territoire.
Forcément.
Et la suite, on l'a vu. Il y a eu des négociations, il y a eu l'Alger, il y a eu un processus dans lequel on est en train de s'embourber encore aujourd'hui. Les Imrades qui ont à cœur de résister, de soutenir, de rester chez eux, de défendre leur patrie, leur terroir, ne vont pas accepter de signer une capitulation. Alors, comme ça.
Monsieur Akado, dites-nous.
Contrairement au pouvoir du Mali, qui ont, moi, je suis de ceux qui croient toujours que on a fabriqué cette guerre-là pour nous amener dans ce processus-là. Sinon, on ne peut pas comprendre que la milice de Gatcha tienne
on ne va pas trop.
Non,
on ne va pas trop.
Je vous conseille.
Pas une milice.
Pardonnez-moi le terme, c'est peut-être un écart. Je veux dire seulement, je ne peux pas comprendre que là où une communauté refuse, n'est-ce pas, d'être piétinée par une autre, et qu'elle continue de résister. Elle est prête aujourd'hui à chasser, n'est-ce pas, les Imrades et disons les Iforas et tous ceux qui veulent s'opposer, n'est-ce pas, à leurs intérêts. Elle est prête, elle a les moyens de les chasser. À ce même endroit, l'État du Mali n'est pas capable.
Alors, on ne s'éloigne pas.
C'est des choses qui sont connectées. C'est pour dire que les négociations dont vous parlez là, elles n'évolueront pas. Parce que les Imrades ne vont pas tomber.
Vous pensez que ça n'a pas de sens?
Ça n'a même pas de sens. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Nous, ce qu'on nous a fait avaler ici au Mali n'était pas acceptable. Seulement, comme la situation est loin de nous, beaucoup de gens ici ne savent pas que c'est une partition de fait du territoire qui s'est dessinée après le 23 mai. Et les événements d'aujourd'hui sont en train de nous le dire. Comment comprenez-vous que des familles qui partagent la même ville ont dit à certaines familles ne rentrez pas et d'autres, les autres, on les sécurise. Et je vous dirais quelque part que aujourd'hui, les gens de Barkhane sont en train d'humilier les familles des Imrades à travers ce territoire-là. C'est de la provocation, Maman histoire de les pousser à réagir contre eux et de sévir sur eux. Ça aussi, on le
nous
sait.
Nous allons donner la parole au sociologue Mamadou Diouara. Monsieur Diouara.
Merci beaucoup. Moi, je voudrais quand même rappeler que, comme je l'ai dit au début de mon intervention, de part et d'autre, hein, ce sont des vies maliennes qui sont en train de partir. Même si certains ont dit qu'ils ne voulaient plus être dans le Mali ou qu'ils ne veulent plus être dans le Mali, le fait est qu'on a signé un accord. Le fait est que, comme il le dit lui-même, nul ne peut empêcher à l'autre d'être là. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc, obligatoirement, il faut qu'on trouve une solution. Donc, moi, je dirais que les pourparlers engagés à Bamako sont une bonne chose. Le problème se situe dans la démarche. C'est toujours bien d'appeler les gens à la paix. Mais on ne peut pas avoir la paix en imposant à l'autre de tout abandonner et demandant à l'autre de tout gagner. Ça ne marche pas. Il faut nécessairement qu'on aille à une solution. Et je pense que la solution, elle est claire. Hein. Les gens n'ont simplement pas le courage d'aller à ça. Si on veut que la normalité revienne à Kidal, ce n'est ni à Gatia de prendre le dessus, ni au HCA de prendre le dessus. C'est à l'armée malienne républicaine de retourner sur son territoire, comme l'accord pour la paix et la réconciliation le dit, le territoire malien est intègre, l'État malien est uni et unitaire. C'est simple. On applique l'accord. Le préambule de l'accord est clair. On applique l'accord. On permet à l'armée de revenir et tous les citoyens sont au même pied d'égalité devant l'État central. Je pense que le problème est réglé. Mais si nous ne sommes pas capables d'avoir le courage politique de dire ça, pourtant, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a été claire. Il faut que l'armée retourne à Kidal. Qu'attendons-nous pour retourner à Kidal? Qu'attendons-nous?
Je souhaiterais que vous posiez
alors,
cette question.
Je crois que nous allons donner plutôt la parole. Vous êtes exprimé, Sidi, vous êtes déjà exprimé. Maintenant, nous allons suivre la réaction de Cheikh Atiebré Doumbia.
Je comprends parfaitement la position de M. Diouara. Mais cette alternative, aujourd'hui, elle est très, très compliquée. Mais qu'est-ce qu'il faut se dire? C'est plus que jamais maintenant que la responsabilité de la communauté internationale est interpellée.
Mais aussi celle du gouvernement.
Celle du gouvernement, naturellement, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais aujourd'hui, la mission qui est aujourd'hui au Mali l'obligation de protéger les civils. Et si le Gacha et la CEMA s'affrontent aujourd'hui, c'est les civils qui vont en perdre le prix, qui vont payer le prix. Première observation. Deuxième observation, vous parlez, vous dites la communauté internationale, vous faites référence à la colonisation. Ce qui se passe actuellement au Nord, c'est qu'on nous divise pour que la France continue toujours à gouverner. Il faut le dire, il faut le prendre par son nom. Le 23 mai auquel vous faites référence, ça n'allait pas s'éternuer comme ça s'il n'y avait pas d'autres alternatives, s'il n'y avait pas d'autres interférences, s'il n'y avait pas d'autres inconnus dans l'équation. Donc aujourd'hui, ce qu'il nous faut, mettre la communauté internationale à son défi, lui rappeler à sa responsabilité que ce qui se passe aujourd'hui à Kidal est en train d'aller dans le même sens que ce qui s'est passé au Rwanda et que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait la lumière sur la responsabilité de la France dans cette situation. Et aujourd'hui, elle continue toujours à maintenir ses statu quo, à ne jamais être claire dans cette situation. Ce qu'il faut, un, moi, à mon avis, pour ce qui concerne la solution, mais prononcer sur les discussions qui sont actuellement en cours à Bamako, eh bien, c'est une bonne chose. Mais ça va aboutir à quoi au finish? C'est là la question. Est-ce qu'on va traiter les questions de fond? Si on ne touche pas aux questions de fond, on va entamer une sorte de discussion, on n'aborde pas les problèmes serrés, eh bien, on passe à côté. C'est une très bonne chose qu'on se retrouve à Bamako. Quand j'étais au téléphone avec lui l'autre jour, s'agissant de la rencontre à Niamey, j'avais laissé entendre que le gouvernement du Mali n'est pas là-bas. Ceux qui sont chargés de suivre l'accord ne sont pas là-bas. Eh bien, que ça ne peut rien. Je parle de l'Algérie.
L'Algérie est là, la France est là, la communauté internationale est présente.
Donc je disais que ça ne peut pas rimer à quelque chose. Comme il l'a si bien dit, au bout de 24 heures, on est parvenu au résultat auquel nous sommes parvenus. Donc ici à Bamako également, si on ne traite pas les questions de fond, si on n'aborde pas les questions essentielles, eh bien on n'ira nulle part. Qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, la ville de Kidal est une situation très précaire. Qu'est-ce qu'il faut? Vous avez dit, ce n'est ni au Gacha, ni à la CEMA, mais c'est peut-être à passer non, à la mise en œuvre.
C'est l'État qui doit être
l'État,
présent.
L'État doit être présent à Kidal. L'État, la finalité de tout ça, c'est la souveraineté de l'État sur toute l'étendue
du territoire
national.
Si l'État n'est pas capable d'aller à Kidal, c'est que Kidal n'est plus le Mali. C'est ça la vérité en fait. C'est ça la grande question. Non,
il est important. Aujourd'hui, il faut reconnaître, nous avons échoué depuis le 23. Si on avait les moyens, si on avait la force nécessaire d'y être, maintenant on aurait trouvé que les questions, c'est d'autres questions, ce n'est pas celles que nous
les
posons aujourd'hui.
Les combattants Gatia sont des Maliens. Les combattants Sema sont des Maliens. L'armée malienne, c'est des Maliens. Vous savez, il est très simple de dire que l'État n'a pas la capacité, dire qu'on n'a pas les moyens. C'est faux! C'est faux, l'État n'a jamais été incapable.
Kidal, vous n'avez pas les moyens à Nampala aussi.
Mais c'est ça le problème. C'est faux, hein. Alors, on a les moyens d'occuper notre territoire. L'armée malienne a la capacité militaire d'occuper le territoire. Le Mali a suffisamment d'hommes capables de se battre. Et on a suffisamment de moyens pour acheter des armes. On sait quelles armes l'ennemi utilise. Ce n'est pas des diables qui sont descendus du ciel. S'il vous plaît, non. C'est important ce que je suis en train de dire parce qu'il y a un discours qui a été tenu pendant longtemps, depuis 2012, en faisant croire au peuple malien que non, on n'a pas la capacité. Ces gens-là sont extraordinairement armés. C'est des combattants hors pair. Écoutez, s'il vous plaît, c'est faux. C'est important de savoir que c'est une question de décision politique et de sérieux.
Et s'il vous plaît,
est-ce que
c'est moi qui ai la parole?
Écoutez, alors, en ce moment précis, personne n'a la parole puisque nous allons observer une pause avant de poursuivre ce débat.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors, nous allons donc revenir à notre sujet. Le sujet du jour, c'est donc la situation à Kidal. Nous avons notamment évoqué cette rencontre dont on dit qu'elle a démarré depuis le vendredi passé. Alors, moi, je vais quand même insister. Nous avons entendu, nous reviendrons à vous, M. Doumbia, dans un instant. Je vais insister au sujet de cette rencontre. Alors, vous avez dit que cette rencontre n'en était pas une, mais nous avons entendu quand même le haut représentant du chef de l'État qui évoquait des rencontres informelles dialogues qui sont en cours. Alors, vous pouvez nous confirmer cela et peut-être ces rencontres ont un peu plus de chances de pouvoir rapprocher les positions, Sidi Albaka?
Je le confirme. Mais malheureusement, c'est comme si c'est un langage de sourds. Ça fait vraiment mal. Mais quand quelqu'un même connaît la réalité, il sait ce qu'il y a de mieux à présenter ou à proposer pour que ça marche. Et il vous amène un papier comme quoi arrêter les hostilités. C'est comme si nous, on insulte notre intelligence. Le gouvernement connaît bien la situation de Kidal. Le haut représentant du président de la République n'est pas un acteur inconnu à la crise. Il connaît très très bien les acteurs d'abord. Il connaît les chefs de fraction de tous les côtés. Cette question Imradi Foras, on a seulement toujours voulu fermer les yeux là-dessus. Le gouvernement sait ce qu'il y a lieu de faire. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de laisser la majorité gouverner en toute démocratie. Je vous donne trois exemples. Regardez en 2008, la première élection, je dirais libre, de Kidal, Arbakan Agabzayek a été nommé, élu maire, c'est un Amarite. En 2013, Ahmoud Nagikmas a été nommé élu député de Kidal, c'est un Amarite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les doigts comptent, si seulement on comptait les doigts, c'est la majorité qui aura raison à Kidal. Mais malgré tout ça, on joue les jeux de certains, on leur donne des forces qu'ils n'ont pas, on les impose. Le gouvernement le sait. Le gouvernement sait très très bien. Aujourd'hui, je vous donne un dernier exemple. Regardez, de 2012 à nos jours, il n'y a que la communauté Imarat qui n'a pas déserté au sein des forces armées de sécurité. Et aujourd'hui, ces jeunes gens, ils sont plus de 1000 et quelques soldats de l'armée malienne. Vous pensez qu'à tous ces mondes-là, on peut infliger une humiliation de la part? Les gens ont une dignité qu'ils ne veulent pas perdre. Mais que le gouvernement du Mali les sache, qu'ils les comprennent, que ce n'est pas avec des mots qu'on va avancer, mais c'est avec des actes concrets. Mais moi, je n'en veux pas au gouvernement qui, malgré que les acteurs ont signé un accord où ils ont reconnu l'intégrité territoriale du Mali, où ils ont accepté le redéploiement de l'administration et de l'armée 20 jours après la signature, qu'il n'arrive pas à se battre pour ce qu'on lui a signé, s'il n'arrive pas à empocher ça, je ne vais pas lui demander une solution miraculeuse.
Alors, vous savez, c'est Doura, important, c'est très rapidement. C'est très important. C'est-à-dire que l'État qui n'a pas été capable de faire respecter ce qu'il a acquis par la signature d'un accord, est-ce qu'on peut compter sur lui pour protéger une communauté? Ça relève, ça soulève le problème de la dynamique sociale. Vous savez, c'est des communautés sur le terrain qui se battent pour leur survie et l'équilibre de leurs relations. C'est un mécanisme purement sociologique. C'est ce que je dis, la République est venue pour effacer ses particularités et les permettre d'être au même pied d'égalité dans l'unité de l'État. Et c'est pourquoi je vais réagir à ce qu'il a dit. La majorité, ce n'est pas l'ethnie. La majorité, c'est tout le peuple avec toutes ces ethnies au sein desquelles les gens se prononcent par rapport à la valeur de ceux qui sont candidats. Mais ça ne peut être garanti que lorsqu'il y a l'État qui est la force neutre. Et cette force neutre-là, la communauté internationale, la société civile malienne et les différentes parties doivent se battre pour qu'elles reviennent et que définitivement on mette fin à la mort des Maliens, qu'ils soient Iforas ou qu'ils soient Imrad ou qu'ils soient d'autres.
Voilà, minorité, majorité, une chose est certaine, Chaka Tchebe Doumbia, c'est qu'il faut qu'on procède, on trouve une façon de rapprocher quand même les positions, il faut qu'il y ait moins d'extrémisme. Que faire à présent pour essayer vraiment de rapprocher la position des belligérants sur le terrain? Après tout, ils sont condamnés tôt ou tard à se donner la main et à vivre ensemble.
Ok, déjà vous avez posé une question qui est, l'État qui n'a pas pu déjà respecter les termes de l'accord, qu'est-ce qu'il peut faire pour protéger la civile?
Faire respecter les civils.
La question de vous, moi quand j'ai dit que l'État n'a pas les moyens, vous pensez que je fais référence à la CMO bien à la plateforme? Je fais référence à l'implication de la France dans cette partie du territoire, il faut le dire. C'est la stratégie qu'elle a développée, la CMO n'existait pas. Mais c'est elle qui a fait tout pour que la CMA existe. Et aujourd'hui, qui parle des Nations Unies, de la communauté internationale, parle de la France, il faut le prendre par son nom. La communauté internationale, c'est la France. L'AMINUSMA ne paye rien, c'est la France. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut tout faire pour éviter ce qui est arrivé au Rwanda. Et c'est elle-même qui est également impliquée dans cette situation. Même si aujourd'hui, on tente encore à faire la maternité des faits dans cette histoire. C'est justement la question auquel je souhaiterais avoir. Maintenant, la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour rapprocher les différentes positions? Moi, je pense que déjà, l'accord a été signé. Il faut aller vers la mise en œuvre de l'accord. On a dit dans ce studio que l'accord, la mise en œuvre de l'accord, ce n'est pas un chemin mécanique d'un point à un autre point. Si tel était le cas, si tel était le cas, maintenant, il faut aller vers le campement et l'intégration dans l'armée, comme il a si bien dit. Il dit que 1000 personnes déjà de la communauté sont dans l'armée et qui n'ont pas déserté. Pourquoi ne pas aller avec cette stratégie et que maintenant la ville de Kidal soit gérée par, et non seulement les forces de l'aménagement et l'État malien? Ça aussi, c'est une proposition.
Mais à Kakado, une minute,
juste pour dire que les gens, on a tendance à se focaliser sur Kidal, mais au-delà de Kidal, sur le conflit entre deux communautés. Le règlement du problème entre les Foras et les Imrad n'est pas la fin des problèmes. Les problèmes ne font que commencer. Moi, je pense que ce qui s'est passé entre les Foras et les Imrad n'est qu'un signe avant-coureur de ce qui va venir si on nous impose ces autorités intérimaires-là. N'est-ce pas? Quand vous parlez de l'État, un État qui n'est pas capable de faire respecter les lois que l'Assemblée passe à côté des lois, parce que vous n'êtes pas sans savoir quand même que ce qui est en train de se passer aujourd'hui n'est qu'une entente politique qui viole la loi, qui viole la Constitution, qui viole tout. Et l'État est en train d'aller à ça. Donc, régler le problème entre les Imrad et les Iforas n'est pas la fin des problèmes. Parce que les problèmes vont naître ailleurs.
Alors, c'est dit,
ils vont naître ailleurs. Et je crois que pour rapprocher non seulement les belligérants et tous les Maliens, n'est-ce pas, qui sont dans cette tourmente-là, il faut revenir au concret. Il faut être objectif. On ne peut pas imposer des minorités à des majorités. Ça ne marchera pas. On ne peut pas régler des questions
sur
les préférences d'un tel par rapport à un autre. Ça ne marchera pas. C'est ce qui est en train d'arriver malheureusement, non seulement au sud, mais aussi dans le nord de ce pays-là. Et partout, les problèmes sont là.
Cette question.
Je termine pour dire que les acteurs, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse de la communauté internationale, qu'il s'agisse des groupes armés, du moins de certains groupes armés, personne ne veut que la paix vienne dans ce pays-là. Parce que c'est le problème du Mali est devenu quand même une vache laitière. Personne ne veut que ça s'arrête là. Il ne faut pas oublier cet aspect.
Sidi El-Mehdi Al-Baka, nous avons évoqué tout à l'heure la mise en place des autorités intérimaires. La chose est prévue en principe pour la fin de ce mois. Alors, pendant que la situation qui règne à Kidal est telle que
vous allez me permettre, juste avant d'aller au problème des autorités intérimaires, mon frère disait tout de suite qu'il faut revenir à l'accord. Mais c'est un danger de revenir à l'accord. Laissez-moi, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. C'est dangereux de revenir à l'accord alors que l'accord n'a pas tenu compte des vrais problèmes. Les vrais problèmes, ils sont communautaires. Et nulle part dans l'accord, on parle de problèmes de communauté. Ça, c'est déjà... C'est prendre en contre-pied.
Oui, moi, je crois. Est-ce qu'il n'est pas trop tard?
Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire et pour mieux faire. Il n'est jamais trop tard pour faire la paix. Il s'agit là de ne pas renoncer à l'accord, de revenir à l'accord, mais de laisser l'accord pour le moment et régler les vrais problèmes. Regardez, hein, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas un problème islamique au Mali. Vous n'avez pas un problème d'indépendance. Il n'y a pas de problème d'autonomie ni de fédéralisme. Les problèmes que vous avez, c'est un problème entre les communautés. Certaines sont fortes qui veulent imposer leurs lois à d'autres qui se sont renforcées, qui ne veulent plus accepter de se soumettre. On est dans une époque de démocratie. Personne n'est même pas propriétaire de sa personne, en plus forte raison que d'avoir une autre personne à sa possession. Je crois. Non, je termine avec ça. Je crois que l'accord a sa place. Nous reconnaissons dans l'accord. Nous allons les soutenir. Mais si on ne revient pas régler ces problèmes, nous allons signer 1000 accords. Nous n'aurons jamais la paix.
Cher Atiable Doumbia.
Moi, je pense que déjà qu'on a signé l'accord, ça, c'est notre prière pour aller vers la paix.
Et là, vous avez... L'accord ne prend pas en compte les problèmes.
Mais c'est un document de toute façon. C'est un document signé. Et ce qui est à l'ordre du jour, c'est sa mise en œuvre. Siri. Nous allons écouter d'abord.
On ne va pas résoudre ce problème. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un pilotage à vie. Le problème que vous avez souligné tout à l'heure est un problème concret. ça a été traité ou pas dans l'accord?
Ça n'a pas été traité.
Ça n'a pas été traité. Mais est-ce que cela veut dire aujourd'hui qu'il faut mettre à côté l'accord et penser à une résolution du problème?
Vous
dites que vous reconnaissez. Une seconde. Vous dites que vous reconnaissez dans l'accord. Vous l'avez dit.
Écoutez.
Que vous reconnaissez dans l'accord. L'accord a été signé. Vous avez signé l'accord. L'État du Mali se reconnaît dans l'accord. Les groupes armés se reconnaissent dans l'accord. Et bien la communauté internationale se reconnaît dans l'accord. Le problème se pose. Les conflits se posent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
Écoutez, on va essayer d'ordonner le débat.
Alors, écoutez,
Chaka Tcheblé va finir et en ce moment, on va donner la parole.
Qu'est-ce qu'il faut dire? L'accord prévoit, aujourd'hui, c'est les groupes armés qui sont en conflit entre eux. L'accord prévoit le désarmement, la démobilisation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut camper tous ces groupes armés.
Terminé donc Chaka, terminé.
C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas l'état malien.
Chaka, vous terminez. Voilà.
Une seconde.
Laissez Chaka terminer. Vous aurez la parole.
On va faire l'économie du temps. Il y a un détail qui t'échappe. Le problème n'est pas un problème de groupe armé. Le problème n'est pas un groupe armé et gouvernement. Le problème est communautaire. Arrête de nous faire perdre du temps. Ce n'est pas un groupe armé qui se bat avec un autre. C'est des civils comme toi, comme lui, comme moi, armés, qui sont en train de régler des comptes. Il faut arrêter de rêver.
C'est qu'il faut peut-être reconnaître.
Finalement.
C'est qu'il faut peut-être reconnaître. Même si c'est des civils, c'est des civils avec qui on a signé cet accord-là.
Pas forcément.
Il faut l'admettre.
Mais pas forcément.
Vous disiez tout à l'heure que vous reconnaissez dans l'accord.
Je dis pas forcément.
Non, vous disiez que vous reconnaissez dans l'accord.
Mais ça, c'est moi. Mais c'est pas le cas de quelqu'un d'autre.
Je parle de ces groupes armés. Vous êtes ici en qualité de représentant.
Tous les signataires, quand même, doivent se reconnaître en principe dans l'accord.
Les signataires, ils sont minoritaires.
Tous les signataires doivent se reconnaître dans l'accord.
Vous faites recours à la dernière résolution des Nations Unies qui brandit les sanctions. Et donc, dans le cadre de la protection des civils, je pense que la responsabilité est engagée dans ce sens.
Le problème, c'est quoi? S'il vous plaît, permettez-moi en même temps de rebondir. C'est ce que j'ai dit. On ne peut pas laisser une communauté régler le compte d'une autre communauté. On ne peut pas permettre à une communauté de s'imposer aux autres communautés. Ce problème, il est réglé par la République, s'il vous plaît. La République, c'est la force centrale qui est là. Elle est équidistante. Elle est égale entre les différentes parties. Il faut permettre à l'armée républicaine de revenir à Kidal. Cette armée républicaine, tous les Maliens qui se sentent Maliens ont le droit d'y entrer. Elle sera reconstituée et elle sera redéployée. Maintenant, dans la gouvernance, ce qu'il est en train de dire est très important.
Finissez donc, monsieur Diouara.
Excusez-moi. Dans la gouvernance, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que de 1990 à nos jours, l'État a fait un comportement, excusez-moi l'expression, de favorisation d'une communauté sur les autres.
Voilà.
Et ça là,
merci,
ça, c'est à ça qu'il faut
la
mettre
parole
fin.
À Agadou,
mais je vais dire, s'il vous plaît, je vais dire le dernier mot, avec votre permission, le dernier mot, c'est que le problème qu'il y a entre Iforas et Imrat est le même problème qu'il y a dans la zone d'Ansongo entre les Dossak et les peuls. C'est le même problème qui va continuer à exister aujourd'hui dans d'autres communautés.
Alors,
c'est
important. Voilà. Écoutez, Agado, vous avez 30 secondes.
C'est pour dire seulement que Diouara vient de nous trouver le mot de la fin. Tout ce problème-là ne peut trouver sa solution que dans les assises communautaires. Des assises sincères, ce n'est pas des montages. Parce qu'on a tellement tourné dans ce pays-là, on a tellement mobilisé de l'argent de 2012 à aujourd'hui, rencontre, sensibiliser, rien, les résultats sont là.
Assise, vous dites, vous parlez de la conférence.
Il faut que les communautés du Nord soient capables, il faut que la communauté internationale, l'État du Mali, les communautés du Nord acceptent de s'asseoir et faire comprendre une fois pour toutes définitivement que personne n'est au-dessus de la loi, personne n'est supérieur à l'autre, personne ne va dominer l'autre contre son gré. Là où les Iforas ont les armes, ils se sont battus, les Bella prendront les armes demain. Ils sont majoritaires aussi dans le Nord, mais ils sont tués, ils sont méconnus. Ils n'existent pas. Dans toutes les commissions, dans toutes les structures, dans tout le processus, ils ne sont pas là. et d'autres communautés sont là. Elles regardent.
Donc
il faut régler les questions.
C'est sur ces propos que s'achève le grand dialogue de Dieu ce mercredi. Je crois que Agado, nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet qui n'est pas un sujet du tout simple. Nous remercions tous nos invités. Sidi El-Medi Aga Al-Bakar du Gatias, Béti Aga Agado de la société civile, Siaka Tchebe Doumbia du centre d'analyse politique et économique, et Mamadou Djouara qui est sociologue. On se retrouve demain pour un autre sujet.
Le grand dialogue.
Siki Kanfoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo de Maudi.
Chenne Beri. Siki Kanfoba.